Paul de Gobert, vous êtes artiste en résidence pendant cet été 2011 dans la ville de Waterloo. Ville de Waterloo dont vous investissez un des parkings, celui qui fait face à l'espace culturel Bernier, et vous y rendez hommage à votre manière à Victor Hugo et en particulier aux Misérables dont vous reproduisez à votre manière sur un espace de ce parking quelques phrases que vous dessinez à la craie, à la chaux, dans une sorte de travail éphémère. Alors racontez-nous un peu comment se déroulent ces journées de travail dans cet atelier un peu particulier.
Il y a les dessins du parking en blanc, bon, qui évoquent un peu des cadres d'une partition ou des pages. Et c'est ça qui m'a donné l'idée aussi d'utiliser ces espaces déterminés pour y réinscrire des réflexions. Mais évidemment, on a dû bloquer l'espace. On a dû même demander officiellement à la police de mettre des panneaux parce que les automobilistes veulent prendre la place et bon, c'est une occupation permanente. C'est pour ça que j'ai appelé ça aussi le parking océan, parce que c'est une énorme plage de bitume sur laquelle il y a des marées de voitures qui viennent tous les jours et qui recouvrent l'espace. En fait, c'est un espace qui est pris à l'homme aussi. Mm-hmm. C'est le problème de l'automobile qui envahit tout et qui occupe beaucoup de place, je trouve, dans notre monde.
Alors c'est une création artistique qui par essence va être éphémère. Quel est le rapport de l'artiste par rapport à une création dont on sait qu'elle est appelée à être vue très distraitement, mais en plus à disparaître?
Déjà c'est une création par rapport à un auteur, donc c'est déjà des mots qui ne m'appartiennent pas, c'est des phrases que je reprends de Victor Hugo et qui passent. Et en fait l'idée c'était aussi d'imaginer Victor Hugo ou l'âme de Victor Hugo qui revient à Waterloo, sur le lieu où il avait écrit Les Misérables. Enfin, c'est pas tout à fait là, mais c'est dans le site. Et que son âme apparaisse et puis, bon, elle disparaît aussi. Il y a un peu l'idée du brouillon des manuscrits de Victor Hugo où les choses sont raturées, revisitées, réécrites. Et moi, je ne voulais pas faire quelque chose de permanent là. D'abord, c'est un parking qui redeviendra un parking. Et puis, c'est un sol très irrégulier. Donc, j'avais pensé écrire ça à la chaux, parce que la chaux disparaît. Et alors, ça devient un jeu avec le climat aussi, parce que bon, il pleut, la chaux s'en va, le texte s'en va. Donc, j'avais écrit Victor Hugo. J'ai quand même mis Victor Hugo Les Misérables, parce que le public qui vient, il faut l'interpeller. De quoi il s'agit. D'ailleurs, parfois, ils posent des questions, ils sont assez curieux. Donc, le mot Victor Hugo avait disparu tout doucement sous l'orage, avec la pluie, on voyait la chaux qui fouillait. C'était un peu comme quand on écrivait des phrases sur la plage. Ce qu'on fait naturellement, on sait que la vague va venir vous l'enlever, et alors on écrit un mot, et puis on sait qu'il va disparaître, quoi. C'était un peu un cadeau à la mer. Là, c'était un cadeau à la mer. Ici, c'est une manière de faire revivre des mots. Et puis, comme il y a tellement de phrases intéressantes dans Les Misérables, que c'est bien que la pluie les efface. Comme ça, je recommence. J'en fais un autre après. C'est un peu comme une grande aquarelle, finalement.
Vous avez fait allusion au manuscrit des Misérables. Il faut dire, pour ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas venus déjà voir l'exposition au musée Wellington, qu'il y a pour le moment, cet été 2011, l'exposition d'un des deux manuscrits des Misérables. Et il y a une sorte d'émotion devant l'encre, devant le fait que ça a été écrit à la main, qu'on sait que Victor Hugo s'est penché, comme vous, artiste, sur ces pages-là. Est-ce que c'est un sentiment qui accompagne votre travail lorsque vous êtes devant votre emplacement de parking à réécrire des phrases de Victor Hugo?
Oui, absolument, parce qu'il y a chez Victor Hugo aussi ce jeu des tâches. En fait, il a fait énormément de dessins, d'expériences avec une espèce d'apprentissage où il essayait des matières et puis de cette matière, de cette tâche apparaissait un personnage. Et il disait lui-même, d'un côté j'écris avec le bout de ma plume, de l'autre côté je dessine avec l'empennage. Donc Et il suffit de voir la quantité de dessins qu'il a fait de la vie avec des taches et des aquarelles aussi. Et donc, c'était un peu son, je dirais, son champ de bataille pour développer son imaginaire. Hein. C'est ça, c'est une espèce de chantier ou de laboratoire graphique. Et il y a un lien étroit entre l'écriture et le dessin. Et ça, c'est très visible chez lui. C'est ce qu'on perçoit quand on voit ces textes écrits. Et aujourd'hui, avec tout le passage qu'on a avec l'ordinateur, l'informatique, et on a un peu perdu le sens de l'écriture. Alors, moi, je peux travailler sur l'ordinateur, mais il faut que j'écrive d'abord à la main, quand j'écris une lettre ou quelque chose. D'ailleurs, nos lettres, est-ce qu'on écrit encore des lettres à la main? On envoie des SMS avec des textes complètement coupés, où le langage disparaît. Donc, c'est important de remettre cette belle écriture de Victor Hugo sur la place publique. Parce qu'en fait, lui a toujours été un homme assez public, ouvert, faisant l'éloge du peuple. Et, ben, les Misérables, c'est une façon de décrire tout un drame qu'on peut encore vivre aujourd'hui. Donc, montrer au public que Les Misérables, c'est toujours là, et que c'est écrit dans un français extraordinaire, dans une langue magnifique. Et le mettre carrément sur le sol, dans la rue, c'est autre chose que sur les murs. Voilà, c'est ça aussi, parce que on voit apparaître partout des expressions de tag incompréhensibles ou très personnelles. Ça, c'est presque comme des signes de clan. Mais ce n'est pas lisible par tout le monde. Donc ici, c'est un langage public. C'est la langue française qui s'adresse à tout le monde.
Vous avez évoqué une des facettes de l'art de Victor Hugo, qui est, il était un dessinateur, il était pas peintre, mais il était dessinateur, il a fait des dessins absolument, absolument extraordinaires qu'on connaît peut-être moins bien. Est-ce que vous sentez une complicité artistique avec ces dessins-là, avec sa manière de travailler?
Oui, absolument, parce que j'ai beaucoup de ses dessins, et même quand il fait des portraits, des caricatures, où il est pas loin des autres caricaturistes de son époque. Et d'ailleurs, il y a même un début semblant de début de bande dessinée aussi. Mais lui, il n'avait pas envie de publier ça à l'origine. Mais je trouve que ses dessins sont magnifiques. Et puis c'est vraiment l'expression brute de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit. Il fait aussi. Moi, ça me touche beaucoup parce que je fais des carnets de voyage, et quand je voyage, je fais des notes, je fais tout le temps des dessins, des petits croquis, des trucs. Et après, ça me sert pour mes tableaux, pour mes travaux. Et je vois que lui, toute sa vie a été une accumulation de carnets, de notes, de dessins, de croquis, qui après se réintroduisent dans ses textes et dans son œuvre littéraire, quoi. Et à la fois, il était extrêmement virtuose dans l'écriture, et on a l'impression qu'il s'amuse de temps en temps à dessiner pour se défouler ou pour faire des choses un peu maladroites même. Mais en faisant des choses maladroites, il découvre un nouveau monde. On pourrait préférer faire un lien entre les dessins de Victor Hugo, qui sont parfois presque abstraits, et alors l'apparition du tachisme, de l'écriture automatique de Michaud. Il y a beaucoup de choses qui sont apparentes. Des collages, des impressions, des empreintes de dentelle, par exemple, où il fait apparaître un paysage tout à fait, une empreinte qui devient un paysage imaginaire, quoi. Donc c'est la suggestion. C'est Vinci qui interroge le mur, et lui, il interroge le papier avec ses matières, etc. Non, c'est vraiment intéressant. Et aussi, quand on voit dans les manuscrits, notamment, on peut voir ça à Waterloo, puisqu'on là, on a les manuscrits sous les yeux. Il avait une façon de plier ses pages aussi, pour laisser un grand espace pour après, pour revenir. Non, c'est vraiment magnifique.
Et on le voit non seulement dans le manuscrit, qui est un objet d'art en soi, parce que c'est un volume très, très conséquent, mais on le voit aussi dans les corrections d'épreuves. On voit aussi à certains endroits son écriture, ce cheminement qu'il fait suivre par la phrase dans le texte imprimé. Ça rejoint un peu ce que vous disiez sur l'écriture et l'ordinateur.
Oui, c'est vrai. Parce qu'on peut imaginer qu'à cette époque-là, toutes les informations qui arrivaient, il n'y avait pas la télévision, pas la radio. Alors, quelle était la réaction de quelqu'un qui s'intéressait à beaucoup de choses, aussi bien la politique, la philosophie, tout ce qui se passait les années. Il faisait des notes. Donc, l'écriture, évidemment, et le dessin étaient indispensables. C'est pour ça que les caricaturistes comme Daumier et tout ça ont eu tellement de succès à cette époque-là, à cette période très troublée au niveau politique et tout ça. Donc, l'apparition des dessins caricaturaux dans la presse, tout ça, ça a été... Et Victor Hugo a été pratiquement un des contemporains de ces caricaturistes. Qui l'ont caricaturé, d'ailleurs, maintes fois.
Oui, il a été souvent caricaturé. Alors, je décris un peu pour ceux qui nous écoutent. On est ici dans votre maison-atelier à Uccle. On a entendu quelques trains qui passaient, qui bordent le bout du jardin que vous m'avez fait visiter et découvrir. Sur la table se trouvent différents exemplaires des Misérables dans la collection Nelson, la petite collection de poches du début du siècle passé, et des notes. Alors, comment travaillez-vous pour choisir, pour réentrer dans l'œuvre, dans Les Misérables et en ressortir sur votre parking de Waterloo?
Depuis plusieurs mois, d'ailleurs, j'ai relu complètement l'œuvre des Misérables. Je me suis trempé là-dedans parce que c'est à petite dose, il faut... Et alors, j'ai fait des petites notes, j'ai mis des petits signets sur les phrases ou les paragraphes qui m'attachaient un peu plus, notamment des textes qui ont un rapport avec Waterloo. Alors j'ai un journal où justement chaque jour où je commence, parce que j'ai commencé ce travail au début du mois et que j'ai eu l'autorisation d'occuper le parking pendant un mois par la police de Waterloo, ce qui est déjà, je trouve, assez extraordinaire que la police accepte qu'on occupe un parking non payant pour écrire de la poésie. Et j'ai commencé par certains textes un peu provocateurs, notamment l'histoire d'Hougomont, où je décris une phrase à propos de Bonaparte, et puis j'ai ajouté un petit dessin, la silhouette de Bonaparte.
Et lisez la phrase, puisque vous êtes devant la page ouverte.
Hougomont, ce fut là un lieu funèbre, le commencement de l'obstacle, la première résistance que rencontra à Waterloo ce grand bûcheron de l'Europe, qu'on appelait Napoléon, le premier nœud sous le coup de hache. Et l'Europe, j'ai écrit comme un euro. Et puis j'ai dessiné une pièce de monnaie, j'ai fait le portrait de Bonaparte en silhouette, j'ai mis 1815. Et puis bon, il a plu, et puis j'ai fait pleuvoir de la chaux sur sa tête. Enfin voilà, donc il y a un jeu graphique aussi qui se fait au jour le jour par rapport au texte.
Vous dites que c'est très frustrant pour celui qui n'a pas pu voir à ce moment-là ce que vous faisiez avant que la pluie ou que la chaux n'efface la partie de l'œuvre.
Non, mais j'essaye de venir chaque jour et bon, quand c'est pas effacé, c'est pas effacé, mais jusqu'à présent, il y a eu pas mal de jours de pluie et ça a été complètement... D'ailleurs, il y a un moment où j'avais développé l'océan, le parking océan, j'avais développé la mer, puis l'évocation de Jean Valjean qui se noie. Dans sa sortie de prison et qu'il est perdu. Donc, Victor Hugo décrit ça comme un marin qui se noie dans la mer. Donc j'ai pris une petite phrase, un homme se noie, et puis j'ai dessiné à la chaux des vagues qui sortent des cadres. Donc il y a à chaque fois on doit être interpellé sans pour ça tout savoir. Il faut que les gens aillent vers le texte. Donc moi, je suis là... Je joue un peu un rôle de provocateur ou de relais.
Est-ce que parfois la dimension graphique de la phrase que vous lisez vous conduit à la choisir? Ou est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est ce qu'elle dit ou la manière dont vous imaginez qu'elle peut prendre forme?
Mais l'écriture de Victor Hugo est très imagée. Et donc, quand j'ai lu, par exemple, quand il décrit ce que c'est Waterloo, quand un voyageur arrive et qui décrit la campagne, qui décrit la ferme, c'est tellement visuel qu'il suffit de prendre deux, trois phrases et je vois le... C'est presque cinématographique. Hein. Et alors, évidemment, si je lis le texte dans le livre, c'est typographique, c'est pas l'interprétation graphique de sa propre main. Mais je prends les textes et je les réécris, mais j'ai l'impression que je suis quand même influencé par, par sa belle écriture. Puis ça me rappelle un peu l'écriture sur un tableau noir à l'école, hein, avec les fautes. D'ailleurs, c'est très drôle parce que le premier jour, j'avais écrit, j'étais tellement emporté par le texte que j'avais, dans la calligraphie, j'avais mis deux hommes avec deux N. Moi, j'étais persuadé que c'était deux M. Et j'avais oublié un jambage. Et tout de suite, il y a quelqu'un qui est venu faire une... Mais qui m'a fait la remarque. Je trouvais ça chouette, comme à l'école. J'avais fait une faute. Alors bon, il a plu, j'ai pu corriger.
Alors, cette expérience n'est pas encore achevée. Vous êtes jusqu'à la fin du mois d'août au travail. Quel est le bilan que vous tirez de cette expérience en tant qu'artiste et en tant que citoyen aussi?
Bah, d'abord, moi, j'ai été très heureux, parce qu'on m'a un peu provoqué en me proposant Les Misérables. Donc moi, j'ai été attiré à relire Les Misérables, que je n'avais pas lu, ça, je l'avoue. J'avais lu d'autres de Victor Hugo, mais pas celui-là. Donc ça m'a fasciné. Et c'est une expérience qui sort un peu de mes habitudes. C'est-à-dire, au lieu de peindre, d'écrire sur des murs, j'écris sur le sol. Et alors, je fais quelque chose qui s'efface. Et il y a aussi, je crois que c'est une réaction... Enfin, ce n'est pas une réaction, mais j'interpelle aussi, quelque part, le monde du graffiti qui a envahi mes peintures. Et dans le métro, j'en ai souffert parce qu'il y a eu des tags qui ne se justifient pas sur cet endroit-là. Autant j'aime bien une expression graphique que font des graphistes, des graphes, et pas des tags, dans plein d'endroits qui sont intéressants, sur du béton, des murs. Mais quand ils mettent des espèces de petites signatures n'importe où, n'importe comment, ça ne se justifie pas. Donc là, moi, je réapproprie le sol, mais je viens avec des textes lisibles et je veux qu'on en revienne à l'écriture lisible. Parce qu'il y a quand même une réaction curieuse. Toutes les plaques publiques, tout ce qui est lisible normalement, qui doit aider les gens à se retrouver dans une ville, à s'orienter. Déjà, on a deux langues en Belgique. Et en plus, tout est couvert de tags, mais vraiment pour gâcher la visibilité. Et là, je crois qu'il y a un gros problème, un problème dans cette génération ou dans notre société. Il y a une réaction contre ce qui semblerait être officiel, mais c'est quand même le langage universel. Donc c'est une agression quand même à la culture. Et ça, je trouve ça quand même un peu grave. Donc il faut prendre une position, je trouve, par rapport à ça. Tout en respectant les très beaux graphes et les très belles, les très beaux délires d'images et de textes dans certains endroits. Mais pas n'importe où.
Paul de Gobert, on va interrompre ici cet entretien. C'est le deuxième que vous m'accordez. Chaque fois, on explore des domaines de l'art différents. En tout cas, j'invite nos auditeurs à venir à Waterloo sur le parking d'ici à la fin du mois. Et sinon, à aller lire, voir vos livres, vos œuvres, là où elles sont exposées, lorsqu'elles sont exposées. Merci, Paul de Gobert.